Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie, ou dit autrement, la phobie de la grosseur. Personne ne fait consciemment le choix de devenir une personne grosse, et pourtant le nombre de femmes grosses, d'hommes gros et d'enfants gros ne cesse de croître. La grossophobie touche tout le monde. Autant la personne grosse, trop souvent victime de discrimination, que la personne non grosse qui, consciemment ou inconsciemment, peut porter un regard discriminatoire et rempli de jugement sur les personnes grosses. Pour en parler, je suis en compagnie de la journaliste et auteure Édith Bernier. Édith nous parle entre autres de la taxe du surpoids, des obstacles et désavantages liés à la grosseur et de l'isolation sociale qui peut en découler. Une conversation fascinante qui m'a fait réfléchir sur ma façon de voir les grosses personnes. Édith Bernier est diplômée de l'UQAM en journalisme. Grande voyageuse qui se rend compte que c'est difficile de trouver de l'équipement de voyage adapté aux personnes grosses, elle a fondé le blog La Backpackeuse Taille Plus. Depuis 2017, elle écrit, elle prend position sur les questions de grossophobie, de diversité et d'image corporelle dans les médias. Son site, grossophobie.ca, a fait d'elle une référence sur le sujet dans toute la francophonie. Elle a publié un livre, « Grosse et puis, connaître et combattre la grossophobie » aux éditions Trécaré. Allô Édith, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Eugénie, bien merci de m'avoir invitée.
J'ai lu ton livre, c'est certain que on ne peut pas rester indifférent face à ce sujet-là. C'était quoi ton élan? Pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire ce livre-là?
Ben en fait, c'est qu'on me l'a demandé, ce livre-là. C'est une excellente nouvelle en soi. Ça montre qu'il y a un petit peu d'ouverture dans la société sur ça. C'est que j'avais, pas longtemps après le lancement en fait de grossophobie.ca, le site web là, qu'on a sorti en août 2019, j'avais été interviewée dans la presse. Et suite à la publication de l'article dans la presse, il y a une maison d'édition qui m'a contactée. Je m'en souviens très bien, c'était un vendredi 13. C'est dur à oublier. Vendredi 13 septembre 2019, je reçois un petit courriel, un petit message sur Facebook d'une éditrice qui me dit « Je te suis depuis un certain temps, as-tu déjà pensé écrire un livre? » Et ça a commencé comme ça. Et pas tout à fait un an plus tard, parce que ce message-là était le 13 septembre 2019 et le 2 septembre 2020, Grosse et puis sortait dans les magasins. Donc, ça a été une belle grosse année de rédaction, d'édition et tout ça. Mais ça a été un processus absolument extraordinaire et je suis tellement contente, en fait, d'avoir eu cette offre-là, cette demande-là d'écrire un livre et d'avoir puis y mettre vraiment les choses qui me tenaient le plus à cœur avec, bon, c'est sûr qu'il faut toujours se circonscrire un peu parce qu'on voudrait aller dans toutes les directions imaginables. Ce sera peut-être un projet pour un autre livre, explorer les autres directions imaginables, mais c'est ça, c'est un peu ça, la petite histoire du livre, en fait.
Et l'histoire derrière grossophobie.ca, ton site web, c'est quoi? J'imagine que tu sentais un besoin de...
Oui, visiblement. Ben en fait, c'est comme beaucoup d'autres choses que j'ai faites. Moi, je suis une fille qui réagit bien sur des coups de tête au plus grand désarroi de certaines personnes, mais des fois, ça marche. Donc, des fois, ça vaut la peine de s'écouter un peu. C'était un dimanche matin en août, encore là, août 2019. Je discutais avec une autre, parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans le blog voyage. J'avais un blog voyage qui s'appelait La Backpacker Style Plus, qui explorait déjà les réalités des voyageuses plus grosses dans le domaine du voyage, toutes les notions de maladaptation, que ce soit des vêtements, d'équipements, transport, etc. Et donc, je rentre dans une discussion avec une autre blogueuse qui est habituellement très, très woke, si tu me permets l'expression, là, très sensible aux enjeux de justice sociale, de marginalisation, de discrimination et tout ça. Et ben, ton propos, là, en ce moment, il est problématique. Tu cautionnes le fait que les gens se posent des questions sur ton corps. Tu justifies le fait que les gens questionne que tu as un ventre, parce qu'en fait, elle faisait une référence au fait que des fois, j'aime ça regarder les gens qui se demandent si j'ai mangé trois tacos de trop ou si je suis juste enceinte. Donc, et de là, et déboulé, et ça faisait une couple de fois que j'avais des incidents avec cette même blogueuse-là. Et là, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben là, si même une personne qui se disent très, t'sais, très sensible, très ouverte, très aware des discriminations, des injustices, des marginalisations, sont même pas éduqués ou sont même pas sensibles à ça, je pense qu'on a un problème et je pense que ça nous prend un site de référence. Donc voilà, c'est un coup de tête j'ai fait comme, bon, ben OK, on est dimanche matin, au mois d'août, je pars un site web. Donc voilà. Et un mois et demi plus tard, je me retrouvais dans la presse pour en parler. Parce que moi, j'ai décidé que si je lançais un site web, ben, quand il y avait un petit peu de contenu dedans, ben, moi, j'annonçais aux médias que je lançais un site web. T'sais. Des fois, il faut avoir du front un
Oui, je suis d'accord.
peu. Ça prend un certain front pour faire ce que je fais, surtout dans le domaine, je dirais, où je le fais. Mais ça paye jusqu'à date. Les gens ont embarqué, les gens sont curieux, les gens questionnent. Donc, faut croire que c'était on était dû, on était mûr pour ça.
Ben oui, il faut croire que ça répondait à un besoin de la société, finalement. On en est où au Québec dans la lutte à la grossophobie? Est-ce qu'on est avancé, pas trop? On se compare comment?
Ben c'est sûr que quand on se compare aux États-Unis, on a du retard parce que, ben, mais t'sais, de façon vraiment générale, là, je parle de l'acceptation, de la connaissance des enjeux, de l'adaptation aussi, de la réalité, entre guillemets, là, c'est-à-dire, t'sais, que ce soit par exemple juste l'enjeu des vêtements, t'sais, c'est probablement le plus connu. On a du retard par rapport aux États-Unis. Par contre, on est tellement en avance par rapport à la France. Donc, puis en Europe, je dirais que c'est pas mal l'Angleterre qui lead, même si je pense qu'on est quand même un peu en avance sur eux aussi. Donc, on est, je dirais, en milieu de peloton. On n'est pas pire que les autres, on n'est pas mieux que d'autres. On est mieux que certains, mais on est pire que d'autres. Je sais que pour beaucoup de mes collègues françaises avec qui j'avais des échanges, je pense à l'autrice Gabrielle Dédier, entre autres, qui a écrit On ne naît pas grosse. Et j'ai échangé avec elle et je disais, ah, ça m'énerve, toutes les gens, tous les professionnels qui m'approchent sur LinkedIn et qui sont quelque chose, blablabla, en obésité, blablabla, en obésité. Puis je suis comme, ça le tente pas d'utiliser un autre terme. Elle dit, écoute, si tu savais en France comment on n'est même pas rendu là, tu sais. Elle dit, les gens qui utilisent obésité ici, c'est même pas nécessairement les méchants. Donc, tu sais, je condense un peu le propos, mais j'étais comme, ah, ici, dire obésité, c'est comme, tu sais, ça me fait un peu, ça me fait un petit peu capoter, là. Donc, la preuve que nous, on est en avance sur d'autres, mais on est un petit peu à la traîne par rapport à d'autres personnes aussi.
Tu viens de dire que le mot obésité te fait capoter. Dans quel sens? Comment ça que tu m'expliques ce que tu veux dire que j'ai
Ben, en
comme.
fait, c'est un thème obésité, embonpoint, surpoids, etc. C'est des mots qui viennent de la médecine, de la science. C'est des mots qui pathologisent, en fait, qui présentent le corps gros comme un corps malade et donc forcément comme un corps à guérir, mais qui le présentent aussi comme un corps en état de situation temporaire, hein, parce que si c'est une maladie que tu cherches à la guérir, il faut que ça s'en aille. Donc, ça fait comme si le corps gros, c'était quelque chose que c'est pas fait pour durer, là. Non, 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 non. C'est juste une phase, là. Faut régler ça, faut remédier à ça. Alors que pour beaucoup de personnes, je veux dire, le corps gros, c'est une finalité en soi. Pour d'autres personnes, c'est une guérison à être plus gros qu'ils étaient avant. Pour des gens, par exemple, qui ont vécu avec des troubles alimentaires, c'est probablement le meilleur exemple. Une personne qui est anorexique sans qu'elle devienne grosse en matière de d'IMC ou de, t'sais, qu'elle atteigne des niveaux que la science trouve trop élevés. Je veux dire, prendre du poids dans un contexte d'anorexie, c'est une guérison. Après avoir eu certains cancers ou certaines maladies, que ce soit des dépressions ou que ce soit bon, plein de maladies, reprendre du poids, c'est une bonne nouvelle. Donc, faut arrêter de voir cette espèce de dichotomie-là de perdre du poids, c'est bon signe, c'est signe de santé. Prendre du poids, c'est des mauvaises nouvelles, c'est signe que tu vas moins bien. Parce qu'on le sait très bien, et j'ai jamais besoin de l'expliquer à personne, dès que je l'évoque, les gens le savent. On se dit « Ah, t'as maigri, t'es belle, ça te fait bien, t'as l'air en forme. » Mais tout le monde sait qu'il pourrait dire ça à quelqu'un qui a un cancer, une dépression, peu importe. Là. Je veux dire, les gens le savent, c'est juste qu'ils pensent pas.
Ouais, puis il y a des sociétés dans lesquelles c'est valorisé aussi d'avoir des rondeurs.
Oui, absolument.
Je me souviens d'une anecdote. Moi, j'étais toute jeune, je pense que j'avais 18 ans, puis je voyageais en Italie à l'époque, sur le pouce, dans le temps qu'on faisait encore de l'autostop. Et là-bas, les mamans italiennes m'engueulaient parce qu'elles me trouvaient trop maigre. Tu sais, c'est...
Mais là, l'Italie, d'après moi, a dû changer un peu. Il reste probablement des secteurs où peut-être même des générations où c'est un petit peu plus valorisé. Mais il y a un ami qui me racontait que sur son lit de mort, sa grand-mère avait dit à un de ses cousins, ou que, en tout cas quelqu'un de la famille, tu sais, je suis content que tu aies trouvé une belle grosse femme. Tu sais, mais je veux dire, il n'y a plus personne qui dit ça aujourd'hui. Puis, mais tu sais, en effet, il y a des cultures, tu sais, le livre Grosse Épuis et grosseophobie.ca, ça s'adresse beaucoup à l'Occident, en fait. Ça s'adresse beaucoup, bon, au Canada, États-Unis, Europe de l'Ouest et même Europe de l'Est, je dirais, où la minceur est élevée comme une nécessité et comme un but à atteindre et comme un objectif de vie, à peu près, là, à atteindre à tout prix. Au risque de souffrir et d'être rejeté et d'être moins considéré, d'être moins pris au sérieux, etc., etc.
Tu en parles beaucoup dans ton livre, d'ailleurs, le culte de la minceur, puis comment on se sert de la perte de poids comme d'un divertissement. Ça m'a frappé de lire ça. J'avais jamais porté attention à ça.
Non, mais en même temps, regardez la quantité d'émissions de télé qui sont basées là-dessus. On pense à Biggest Loser, on pense à toutes les The Swan, là, les espèces de métamorphoses, à 99% ça impliquait de la perte de poids. Je veux dire, on est dans une société qui, je me rappelle, il y a justement en France, il y avait un styliste français qui donnait des conseils fashion pour les femmes, et la première chose qu'il disait, c'est si vous voulez porter telle affaire, on porte un bon sous-vêtement gainant. Sortez vos spanx, finalement. Mais c'est comme, OK, mais là, je peux-tu être grosse, tranquille? T'sais? C'est que je me dis, parce que, bon, les gaines, les spanx, les trucs comme ça, là, je veux dire, ça fait pas, ça veut juste changer le gras de place, là, mais je veux dire, ça fait pas maigrir personne. Là. Donc, puis à un moment donné, tu peux pas te refaire une silhouette au complet. Là. Je veux dire, si t'as pas de hanches, t'en auras pas plus avec des spanx, puis si t'as pas de taille, t'en auras pas plus avec ça non plus. Là. Faut apprendre à vivre avec ce qu'on a. À tous les niveaux d'ailleurs, mais c'est ça, c'est il y a tellement de divertissement dans l'extrême qui est présenté dans ces émissions-là, que ce soit dans l'extrême souffrance que ces gens-là vivent, dans les sacrifices qu'ils font, que ce soit dans leur comportement aussi souvent prise en main, et là je le dis avec des gros guillemets dans les airs, là, prise en charge. Que j'entendais des gens qui mangeaient du sucre à la cuillère, qui étaient tellement sur des rails de sucre qu'ils ont failli faire des accidents sur l'autoroute. C'est vraiment du spectacle. Et ce n'est pas la réalité d'un paquet de personnes grosses, mais on prend les personnes grosses qui ont le plus de potentiel de scandale pour faire jaser dans les chaumières et on fait un show avec ça et ça marche. Parce que c'est spectaculaire de raconter une histoire de quelqu'un qui mange du sucre à cuillère. C'est de quelqu'un qui était prête à faire n'importe quoi, à s'enlever la vie parce que la personne était trop malheureuse avec son poids. Des histoires absolument rocambolesques de relations, de personnes qui voulaient rentrer en relation avec des personnes et ce qu'elles se faisaient dire ou la fétichisation qu'elle a vécue. Tout ça, ça fait jaser. Là. Il y a du je dirais pas du wow factor, mais il y a du factor dedans. Tu sais.
Donc, ça ne tient pas compte de la réalité.
Ben, c'est que ça ne tient pas compte de la réalité d'un paquet de monde. Oui, il y a des gens qui vivent ça, mais il y a plein d'autres gens qui ne vivent pas ça, qui ne vivent pas comme ça, qui n'agissent pas comme ça, qui ont des vies normales, pour ne pas dire banales.
T'as dit quelque chose qui me touche, qui m'accroche, c'est de dire, je peux-tu être grosse puis tranquille?
Oui.
Est-ce que c'est possible d'être gros puis tranquille?
La question se pose. Je pense que moi, en ce moment, je suis assez tranquille, mais c'est parce que je pense que j'arrive avec un avis qui me précède aussi. Tu sais, il n'y a plus grand gens dans mon entourage ou même dans l'entourage de mon entourage qui n'est pas au courant de ce que je fais, qui n'est pas au courant de mes démarches, qui n'est pas au courant de mes actions, du temps que je passe justement dans la rédaction du blog, de livres, des conférences, la sensibilisation, des entrevues médias, etc. Donc, ça fait que je peux quand même être grosse, assez tranquille. Mais ça me prend ça. Et c'est pas tout le monde là, qui fait ça. C'est pas tout le monde qui a le temps, c'est pas tout le monde qui a le goût, c'est pas tout le monde qui a l'énergie. Et c'est tout à fait normal. Et les gens ne devraient pas avoir à semer et à planter des pancartes autour d'eux autres là, à dire ben, « parle-moi pas de mon poids parce que c'est toi qui vas en entendre parler ». Les gens autour de moi même là sont comme « Ah, j'ai entendu telle chose à la radio, ils m'envoient des choses grosses comme minces. Hein. » Autour de moi, j'ai des drag queens, j'ai des danseurs, j'ai des gens de toutes les grosseurs. J'ai un formidable cercle de femmes grosses. On est un petit groupe de 7-8 là, qu'on discute ensemble et que, mon Dieu, me retrouver dans ce cercle de femmes grosses là est tellement rafraîchissant et tellement apaisant, je dirais, de ne pas avoir à toujours tout expliquer aussi, tu sais, de savoir, ah, tu sais, telle affaire, là, ah oui, alors que tu te racontes, tu fais la même référence à une personne non grosse, et cette personne-là a aucune idée à quoi tu fais référence, il faut que tu expliques tout. Donc, j'ai un entourage qui est hyper hétéroclite, de gens qui viennent à peu près de toutes les cultures, de tous les niveaux de vie, de tous les statuts sociaux, de tous les t'es en couple, pas en couple, poli, pas poli, bon. Et tous ces gens-là ont en commun le fait que ils respectent ma et la grosseur, je dirais. T'sais, ils sont devenus tolérants et ils sont devenus sensibilisés. Et par contre, c'est sûr que je me donne quand même une mission d'éducation. Puis ces gens-là n'ont pas nécessairement été toujours comme ça dès le départ. Mais la plupart étaient au moins curieux. Et sensible, ils voulaient comprendre. Et ils ont fait preuve d'une bonne foi extraordinaire. Et j'ai la chance d'être entourée de personnes qui m'achalent pas avec ça, tu sais. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et je sais que je vis quand même beaucoup de ces petites micro-agressions que les gens vivent, c'est-à-dire justement pas pouvoir aller magasiner des vêtements, là, c'est un cauchemar. Là. Je veux dire, on n'existe plus dans les magasins de vêtements au Canada. Pas juste au Québec, mais au Canada. Je veux dire, il reste à peu près 4-5 Pennington au Québec et c'est tout pour les personnes de ma taille. Ça finit là. Et ils sont souvent dans des endroits qui sont surtout accessibles en voiture. Donc, au centre-ville de Montréal, on rentre dans un centre commercial comme le Centre Eaton, à moins de tomber sur un truc taillé grand chez Old Navy, ça finit là. Donc, c'est un problème. Imaginez ce que c'est de vivre en région, par exemple. Donc, on se réfugie sur l'Internet. Là. C'est littéralement ça qui se passe pour nous. Toutes les bon, dès qu'on veut aller en voyage, justement, ça, c'est une réalité dont j'ai beaucoup parlé. Les sièges, les ci, les ça, tu me retrouves assis à côté de quelqu'un, est-ce que je peux m'asseoir avec quelqu'un que je connais, ça va être moins inconfortable si je frotte la cuisse dessus, à côté d'un étranger, c'est une autre histoire, etc. Le fait de pas être capable de pas être confortable de demander des accommodations au milieu de travail, par exemple. Moi, j'ai réussi à en parler, j'ai une merveilleuse évaluation ergonomique, ma chaise est deux fois plus grosse que celle des autres, mais mon cubicule est de la même grandeur. Donc, tu sais, clairement, ils font de la bonne foi, mais là, il faudrait que mon cubicule suive, tu sais. Mais là, s'ils agrandissent mon cubicule, ça risque de faire jaser et de déplaire à d'autres. Et toutes les micro-agressions autour de « bon, tu vas au restaurant, tu manges une salade, les gens te regardent, sont comme « oh, c'est touchant, elle essaye ». Tu manges une poutine, ah ben là, c'est pas surprenant qu'elle soit grosse. Tu sais, tout ça, les gens qui me connaissent pas et qui me voient, tu sais, je vis tous ces regards-là, ces petites micro-agressions-là que monsieur, madame, tout le monde vit aussi quand ils sont gros, tu sais, que tous nos choix, parce que, je veux dire, ta grosseur, tu peux pas t'en cacher. Donc, que tous les choix que tu fais deviennent teintés par ta taille aux yeux des gens. Donc, si tu prends l'ascenseur au lieu de l'escalier, ah ben là, c'est parce que t'es une grosse paresseuse pas en forme. Ça se peut-tu juste que j'ai mal aux genoux? Ça se peut-tu juste que j'ai un problème de tendon d'Achille que j'ai développé en faisant de la course? Donc, tu sais, c'est ça, là. Les gens, souvent, je ne sais pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui ne font pas l'effort de voir au-delà de leurs propres préjugés, en fait. Et c'est là que ça blesse beaucoup de personnes.
Je te remercie de nous donner ces exemples-là parce que ça m'aide à mieux comprendre. C'est ça le but derrière l'entrevue, essayer de comprendre ce qu'on peut vivre quand on est gros, puis d'avoir ce regard inquisiteur des autres tout le temps, ça doit être agressant. Moi, j'ai été avec un homme qui était aussi en surpoids et.
Oh, vous pouvez dire gros, c'est correct. C'est correct de dire gros. C'est correct de dire gros.
J'étais avec un homme qui était gros et en fait, ce que je remarque, c'est que lui-même était son propre juge et.
Ah, la grossophobie internalisée, ça, c'est toute une autre question aussi, là. C'est tout un autre enjeu. Et la grossophobie internalisée, ça ne touche pas que les personnes minces, ça touche tout le monde. Moi, je suis la première qui admet en vivre encore à l'occasion. C'est cette internalisation de tous les préjugés, de toute la discrimination, de toutes les conceptions toutes croches et inexactes qu'on a à propos des personnes grosses qui ont été véhiculées par la science, par les médias, par la publicité, par les préjugés de société dans l'ensemble, qu'on parle de, tu sais, les gros sont moins intelligents, sont paresseux, ont des hygiènes douteuses, mangent tout le temps, sont inactifs, sont incapables, sont inefficaces, sont pas attirants. Aussi, tu sais, qu'une personne grosse qui est laide, c'est ce que j'appelle la grossophobie esthétique dans le livre, mais aussi, ça fait aussi partie de l'internalisation du fait que on s'est fait dire qu'une personne grosse n'est pas attirante, n'est pas belle. Donc, ça, c'est tout un autre enjeu et c'est particulièrement pervers, la grossophobie internalisée, parce que elle est internalisée et à 99% du temps, pour ne pas dire à 100%, elle est inconsciente. On ne se rend pas compte de ces petites mécaniques-là en dedans qui se font et qui nous font sortir des affaires comme « Ah, oh, t'as maigri, t'as l'air en forme » ou « tu sais, ah, ben ça l'avantage pas ce qu'elle porte, hein, c'est pas flatteur. » Ouais, mais la personne, elle porte peut-être ce vêtement-là parce qu'elle l'aime, tu sais, puis peut-être qu'elle, elle se sent cute dedans et c'est tout ce qui devrait compter. Il y a énormément de charges négatives sur le mot gros ou grosse. Puis il y a une façon aussi, je pense, de l'utiliser comme il faut. Personnellement, moi, quand on dit un gros ou une grosse, ça m'horripile. C'est comme dire un itinérant ou une handicapée ou non, non, c'est une personne grosse, une personne itinérante ou en situation d'itinérance, une personne qui vit avec un handicap ou une personne handicapée. Mais tu sais, on est des personnes avant d'être notre grosseur. Il y a ça. Mais je sais que c'est un challenge pour énormément de personnes de faire la paix avec ce mot-là, mais c'est pas impossible parce que ça a été fait avec d'autres termes, hein. On pense juste au terme queer, par exemple. Queer, c'était un terme qui était super désobligeant, super négatif, et les gens maintenant se le sont réapproprié et le brandissent fièrement comme par rapport à leur expression de genre et par rapport à leur orientation. Donc, le mot punk, même chose, être traité de punk, c'était pas un compliment. Et c'est tout un mouvement, justement, qui se l'est réapproprié et qui a fait ce processus, si je ne me trompe pas, qui s'appelle la réappropriation subversive. Donc, qui s'est réapproprié un terme qui était subversif pour leur virer de bord et lui redonner un sens plus positif ou du moins négatif. Donc, je pense que c'est un peu le processus qu'on est en train d'essayer de faire avec le mot gros et que j'espère réussir à faire parce que techniquement, le mot gros, il n'est pas supposé être négatif. Hein, quand on dit quelqu'un a une grosse maison, je parle de ça dans le livre, quand on parle d'un gros chien, quand on parle d'un gros chèque, d'un gros char, c'est toutes des belles choses. Un gros compte en banque, a mené une grosse vie même. Tu sais, il mène la grosse vie, elle mène la grosse vie. C'est toutes des affaires super positives. Là. Pourquoi quand on arrive à une personne, ça devient négatif? C'est-à-dire qu'un gros problème, c'est négatif. Un problème, c'est déjà négatif à l'avance. Une personne, c'est pas supposé être négatif ou positif à l'avance. Donc, pourquoi juste de rajouter le mot gros, forcément, ça fait quelque chose de moins bon? C'est l'invitation à la réflexion que j'ai envie de lancer. Mais oui, en effet, la charge autour de ce mot-là, il y a eu tellement d'intimidation, il y a eu tellement de reproches, il y a eu tellement de jugements. Et même, je vais aller plus loin, je pense à ma mère qui me parlait de ça. Tu sais, elle avait dit que bon, elle avait vécu quelque chose par rapport à la distanciation sociale dans le contexte de la COVID et tout. Puis elle a dit, ah, je voulais la. Dans ma tête, je me disais grosse épaisse. Mais là, je me suis dit, non, je ne veux pas la traiter de grosse épaisse. Je peux la traiter d'espèce d'épaisse, de Moses d'épaisse. Mais t'es pas obligé de la traiter de grosse épaisse. Donc, tu sais, mais c'est des petites choses aussi. T'sais, là, si on tombe dans les détails, là, t'sais, je veux dire, si on a réglé le dossier du mot gros avant de régler cet aspect-là, ce sera un détail, là. C'est un peu comme l'aspect de la maladie, par exemple. Est-ce que l'obésité est une maladie? Je reprends les mots de mon collègue Michaël Bergeron, qui est un type absolument formidable, et qui dit, on va peut-être arrêter de se battre avec le fait qu'on ne veut pas qu'on dise que l'obésité est une maladie quand toutes les autres formes de discrimination, de marginalisation autour du poids auront pris le bord. Parce que là, en ce moment, ça fait juste rajouter une couche de plus à toutes celles qui existent déjà. Et c'est en plus d'être paresseux, mal vu, pas attirant, d'être vu comme tout ça, en plus, il faut être officiellement considéré malade. Et on n'est pas sorti du bois, là. Donc, c'est comme quand on parle que l'obésité est inclue dans les motifs d'handicap apparent, pour des questions, par exemple, d'embauche à l'emploi, selon la Charte des droits et libertés du Québec. Ben non, parce que si on met l'obésité comme, même si c'est comme un handicap perçu, là, ce qu'on fait, c'est que non seulement on prend toute la charge négative et tous les préjugés qui sont associés aux personnes grosses, et on les rajoute à ceux que vivent déjà les personnes qui vivent avec des handicaps, et on prend toutes les préjugés, les discriminations que vivent les personnes handicapées, et on les rajoute sur le dos des personnes grosses. Il n'y a absolument rien à gagner pour moi à confondre et à mélanger ces choses-là. Le handicap, déjà, a tellement de formes différentes et de nuances différentes. Il y a des handicaps physiques, psychologiques, moteurs, visibles, invisibles, t'sais, à intensité variable. Je veux dire, bon, je suis vraiment pas la pro des handicaps, mais si en plus, il faut rajouter la grosseur là-dedans, je veux dire, non, la taille, le poids devraient être une catégorie en soi parce que ça ne ressemble à rien d'autre.
Tu parles de préjugés négatifs et de stigmatisation. Ça m'a frappé en ouvrant ton livre au chapitre 1. Je peux lire, selon une étude américaine, plutôt qu'être considérée comme obèse, 30% des personnes sondées préféreraient être divorcées, 25% préféreraient être incapables d'avoir des enfants, 15% seraient prêtes à mourir 10 ans plus tôt. Puis ça continue, tu continues comme ça. C'est effrayant, effarant.
Qu'est-ce que ça prend plus pour montrer à quel point cette discrimination-là, cette marginalisation-là est forte? Les gens, ce que les gens seraient prêts à sacrifier plutôt que d'être gros, il est là. Il y a même des gens qui étaient prêts à sacrifier la vision, qui étaient prêts à devenir aveugles pour pouvoir avoir d'enfants,
Oui,
perdre
4%
un
aimeraient mieux
membre.
être
Hey,
aveugle.
écoutez, là, je veux dire, voyons donc. 4%, ça va être pas beaucoup, c'est beaucoup trop, là. Ça donne une idée, en fait, et à quel point les gens, ils savent à quel point c'est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est lourd d'être une personne grosse. Parce que regardez, ils ont répondu là, à 25-30% qu'ils aimeraient mieux sacrifier X, Y, Z choses plutôt que d'être gros parce qu'ils savent à quel point c'est pas évident de mener une vie normale, et à quel point il y a plein d'agressions de diverses intensités, de manque de respect, de défis, de challenges que finalement, on peut pas vraiment s'étonner de voir que les personnes grosses finissent souvent par vivre de l'isolement social. Qui peut les blâmer de ne pas avoir envie de sortir de chez eux, hein? Mais dans le livre aussi, je parle à un moment donné, quand je parle de grossophobie, dans les relations intimes, amoureuses, etc., j'évoque que dans le choix d'un partenaire, les gens vont être plus aptes à choisir un partenaire qui a un passé criminel qu'un partenaire obèse, par exemple.
Oh!
On ne spécifie pas la nature de l'offense, là, on s'entend, là, mais je veux dire, j'imagine qu'ils n'ont pas dû faire t'sais, une personne qui avait juste un excès de vitesse. Donc ça donne une idée à quel point ça va loin et à quel point c'est le pic de la représentation négative en société d'être gros, là. C'est pire qu'une personne qui a un dossier criminel. Il y a plein de personnes qui ont des dossiers criminels qui sont, t'sais, je veux dire, qui se sont repris et qui, bon, t'sais, qui ont vécu des choses. T'sais, il y a toute une explication derrière. Le fait d'avoir un dossier criminel, puis ma dernière, je suis vraiment pas spécialiste là-dedans, puis la dernière chose que je veux faire, c'est juger les gens qui sont passés par là. Mais quand on sait à quel point ces gens-là sont victimes de préjugés, et qu'on se dit que il y en a encore plus envers les personnes grosses. Moi, c'est ça qui me parle.
Edith, est-ce que, d'après toi, là, on est en 2021, est-ce que l'importance, la place des médias sociaux dans nos vies, est-ce que ça contribue à augmenter la grossophobie ou au contraire, ça peut...
Je pense que c'est aussi bon que ça peut être mauvais, en fait. Je dirais que c'est au moins 50-50 parce que les réseaux sociaux et l'Internet en général ont permis aux personnes grosses de se retrouver entre elles. Et de se mettre en confiance, de se partager des conseils, de partager ce qu'elles vivent dans un contexte qui n'était pas nécessairement possible avant parce que on n'a pas toujours, même si, bon, techniquement, il y aurait à peu près une trentaine de pourcents de personnes qui sont dites, là, entre guillemets, obèses au Québec. On n'a pas toujours une de ces, une de ces personnes-là, de ce 30%-là, qui fait partie de notre vie. Tandis qu'avec avec Internet, avec les groupes, en fait, les différents forums, les groupes, par exemple, sur Facebook, des choses comme ça, ça permet beaucoup de se retrouver entre nous. Je pense aussi que le fait, justement, de se retrouver entre nous fait que ça nous donne un sentiment justement de groupe et de solidarité et ça fait qu'on peut réagir plus fort. Je veux dire, si un paquet de grosses personnes s'en viennent réagir sur quelque chose en disant c'est inacceptable, ben ça a plus d'impact. Je pense aussi que ça permet de faire mieux circuler les idées pour les personnes qui seraient sensibles à ça, mais qui ne seraient pas nécessairement au courant de cette réalité-là de la grossophobie. Il y a plein de personnes grosses qui n'ont aucune idée de personnes non grosses, pardon, qui ont aucune idée, mais comme dans toutes les causes, t'as pas besoin d'être gros pour te battre contre la grossophobie, comme t'as pas besoin d'être LGBTQ pour soutenir leurs revendications, comme t'as pas besoin d'être noir ou racisé pour être une personne qui est active contre le racisme, tu vois le principe. Donc, ça a permis d'aller chercher des alliés aussi, et je pense que le plus bel exemple, moi, qui me vient en tête, et même s'il y a des gens qui ont dit, mais voyons, qu'est-ce qui leur est passé par la tête quand c'est arrivé, moi, je pense à la pub de Maxi. La fameuse pub de Maxi avec Martin Matt qui portait un fat suit. La plupart des gens se sont dit, ben voyons, ils ont eu une bulle au cerveau quand ils ont créé cette pub-là. On était en 2020 à l'époque. Il n'y a pas personne qui a allumé sur le fait qu'il porte un fat suit, puis mélanger des tomates avec de la crème glacée, puis boire de la sauce à même la canne de conserve, que ça, par une personne grosse, que c'est pas stigmatisant puis que ça serait pas décrié. T'sais. Déjà, ça, c'est un problème. Mais il y a eu tellement un gros mouvement de gens qui se sont plaints justement sur les médias sociaux qu'en dedans de quelques heures, la pub était retirée. Et ça, avant, ce n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de croire que ça a aidé, ça a au moins 50% positif parce que ça a sensibilisé. Puis c'est pas juste des personnes grosses qui se sont plaintes de ça. Il y a plein de personnes non grosses qui s'en sont plaintes aussi. Et moi, ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben voyons, je trouve ça encourageant de voir qu'il y a des agences de pub qui sont aussi rétrogrades puis qui sont aussi pas avec leur temps que ça. Mais je dis, oui, ça c'est dommage, mais la population a été là pour les remettre pour forcer de les remettre les pendules à l'heure. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Moi, ça m'a donné énormément d'espoir de voir ça. Je pense qu'aussi dans une lutte comme celle contre la grossophobie, comme c'est la plupart des cas pour la lutte contre les discriminations, faut voir l'espoir où il y en a. Et il faut tout le voir parce que souvent, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, moi, ça m'a vraiment fait comme un... Tu sais, ça a vraiment... OK, ben la population est sensible, la population est au courant et la population, et jusqu'à un certain point, réalise à quel point c'était problématique et a une sensibilité et est un peu de notre bord, c'est pour ça, dans l'extrême du moins.
Dans ton livre, tu parles de la taxe du surpoids.
Mm-hmm. La fat taxe.
Oui. Peux-tu nous en parler? Parce que j'étais comme surprise de lire ça, mais quand tu l'expliques, c'est tellement clair.
Ben, ça coûte plus cher d'être plus gros, tout simplement. Que ce soit quand on va acheter un matelas, par exemple. Et là, si c'est deux personnes grosses qui partagent le matelas, on n'en parle même pas. T'sais, je veux dire, ça prend un matelas avec probablement de plus grande qualité, qui coûte plus cher à faire, etc. Puis s'il est plus grand, ou en tout cas, tu as toutes les questions de livraison. Les vêtements, c'est probablement l'enjeu numéro un. les vêtements pour hommes gros, ça coûte cher. Les vêtements pour femmes grosses coûtent cher. Mais pour les hommes, j'étais absolument hallucinée. J'ai un ami qui était plus gros et qui me disait quand il allait dans certains magasins que juste un polo vraiment de base, il coûtait une petite fortune. Mais je suis quand même, c'est hallucinant. Et c'est même pas un truc là, griffé ou rien. Là, c'est même pas. C'est vraiment juste un truc de base générique. Là.
Mais donc, comment on justifie que ce soit tant plus cher?
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Et je vais reprendre des mots. Il y a une humoriste qui s'appelle Catherine Thomas, que j'adore, et qui avait dit à un moment donné, « Ah, ben là, il faut charger plus cher parce qu'à cause du tissu, elle disait ça en blague. » Elle dit, « Quand est-ce que tu as payé moins cher pour ton X-Mall? »
Oui, puis quand est-ce que tu as payé moins cher pour des sous-vêtements ou des maillots de bain qui n'ont pas beaucoup de
tissu? C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, mais là, je pense que les sous-vêtements et les maillots de bain, c'est une question de technique et d'expertise aussi. Oui, là, et de qualité des tissus, probablement, et tout. Mais, tu sais, je veux dire, un t-shirt que tu vas dans, mettons, tu vas dans n'importe quelle boutique classique, du X-mall au large ou au X-large, il va être le même prix. Mais là, tout d'un coup, quand tu tombes dans l'XX large, il est plus cher. Ou il y a même des gens qui vont faire des levées de fonds, des choses comme ça, et que de X small à large ou X large, ça va être un prix. À partir de XX large et plus, ça va monter. Donc, il n'y a pas 15$ de plus de tissu, là. C'est pas vrai, là. Pourquoi pas répartir la différence sur l'ensemble des produits? Tu sais, chaque produit, mettons, serait, je dis n'importe quoi, là, mais 1$ plus cher, mais ça ferait que les produits en bout de ligne, les plus grands, seraient le même prix que les autres. Bon, on dit, j'ai entendu toutes sortes de choses sur les explications sur le coût. On me disait des fois que c'était les largeurs de tissu, en fait, le standard, là, quand ils vendent les lots de tissu, la largeur faisait que c'était plus complexe, apparemment, de tailler les morceaux de vêtements. Donc, ça pouvait, avec le même lot de tissu, c'était vraiment plus complexe de faire des vêtements. Moi, ça, c'est une des explications que je trouvais qu'il y avait un certain sens qu'on m'a donné. Je ne l'ai pas vérifié, mais ça apparaissait avoir une certaine logique. Mais sinon, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils ne se vendent pas. Dès qu'il y a un magasin qui s'ouvre, tout le monde se lance. Dès qu'il y a un magasin quand Additionnel a fermé, ça a été la fin du monde. Ça a été une hécatombe, je veux dire. Toutes mes amies, en fait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que je vais trouver mes sous-vêtements? Où est-ce que je vais trouver mes jeans? Où est-ce que je vais trouver... Parce qu'en ce moment, si on vit au Québec, à part Pennington et Old Navy, qui sont... Bon, Old Navy, la collection Taille Plus, c'est uniquement en ligne et c'est une marque américaine. Pennington est une marque canadienne. Redmans va se rendre jusqu'à un 2X, peut-être, mais tu sais, 2X... Pour eux autres, c'est taille plus et c'est un petit 2X. Si tu compares à Old Navy, que 2X, ils ont ça partout en magasin. Donc, tu sais, c'est pas. Il y a aussi beaucoup d'inégalités là-dedans. Donc, on est pogné en ligne. On n'existe qu'en ligne. Et même quand Forever 21, par exemple, a fermé, ça a été un drame. Et là, les femmes se retrouvent toutes en ligne. Et c'est pas parce que les surfaces de magasins coûtent cher là, que les vêtements taille plus coûtent cher. Il n'y en a plus de magasins. Il n'y en a plus. Donc, il y a tellement de choses qui pourraient influencer et qu'on ne comprend, que je ne comprends pas. Enfin, ça, c'est pour les vêtements. Mais tu sais, on parle de toute la question, par exemple, des sièges d'avion, tout ce qui est juste un peu plus gros. Ma chaise de bureau, je dois la payer plus cher parce que il faut qu'elle soit ben, plus grosse et plus solide. Les appareils d'exercice. OK? Les appareils, ce que tout le monde devrait vouloir encourager les personnes grosses à utiliser, la plupart arrêtent à 250 livres. Donc, il faut que tu payes beaucoup plus cher pour un vélo ou pour un elliptique ou pour des appareils comme ça qui vont faire pour des poids plus élevés. Et ça continue, là. Il y a tellement, tellement, tellement de trucs que pour un petit peu d'adaptation, je voulais prendre un vol pour aller survoler les lignes de Nazca au Pérou, mais à cause de mon poids, parce que c'est des petits avions, pour des raisons de sécurité, il fallait qu'ils me chargent comme deux personnes. Donc, parce que c'est des traites... Non, mais au moins, je me dis, ils ont pensé à la sécurité, là, mais ils voulaient me charger pour deux personnes, comme s'ils ne faisaient pas déjà d'argent. Anyway. Donc, puis je ne l'ai pas fait, finalement, et apparemment, j'aurais probablement eu un mal de cœur monumental. Donc, c'est peut-être mieux comme ça. Mais c'est ça, la réalité, en fait. C'est que être plus gros coûte plus cher à tous les niveaux. Et là, en ce moment, on se retrouve justement avec cette fameuse pénurie de fournisseurs de vêtements. Moi, je me dis... J'espère que j'aurai pas une entrevue pour un emploi qui ne sera pas via Zoom, mais où est-ce que je pourrais peut-être juste porter quelque chose en haut. Donc, parce que, admettons, là, on apprend, quelqu'un apprend, je sais pas moi, une femme qui est sur l'assurance emploi apprend qu'elle a une entrevue dans une semaine pour un poste. Une semaine d'avis pour une entrevue, c'est tout à fait normal. Des fois, on a beaucoup moins que ça. Si elle n'a pas de vêtements, hein, oubliez ça. Elle ne peut pas arriver habillée professionnelle si elle n'a pas déjà son kit. Là. Parce que faut qu'elle commande, faut qu'elle ait les moyens de commander aussi, hein, parce que cette personne-là est sur l'assurance emploi, elle est peut-être sur l'aide sociale, on ne sait pas. Ben, visiblement, si elle cherche un emploi, ça se peut qu'elle soit sans emploi. Faut qu'elle ait le temps, en plus de l'argent, de commander, d'essayer de ci, de ci, de ça.
Faut attendre que ça arrive.
C'est ça, faut attendre que ça arrive, faut l'essayer, faut avoir accès à une carte de crédit aussi. C'est pas tout le monde qui a accès au crédit. Il y a des gens qui ont des historiques de crédit plus difficiles, donc qui n'ont pas nécessairement accès au crédit. Donc, les gens réalisent ça. Fait qu'à un moment donné, là, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir tellement de grosses femmes qui vont se présenter en entrevue habillées de leur gros possible, mais puis probablement que ça va arriver à des hommes aussi. Puis finalement, puis qu'est-ce que ça fait? Ben ça nuit à l'embauche parce que toutes les autres vont arriver habillées parfaitement. Donc, et déjà qu'on sait que les femmes qui sont placées obèses vivent, en tout cas du moins en France, 8 fois plus de discrimination à l'embauche que les femmes dites de poids, entre guillemets, normal. Si en plus, elles ne peuvent pas arriver habillées corporate, imaginez.
Est-ce que c'est pire d'être une femme grosse ou d'être un homme gros?
Je sais que c'est pas facile d'être un homme gros. Je suis contente que c'est une question qui se pose et je suis contente qu'il y ait des hommes qui en parlent de plus en plus. Je pense que c'est pire en partie être une femme, mais pas nécessairement beaucoup plus. Parce que je pense que pour la femme, il y a souvent des doubles standards à plein niveau homme-femme. Hein? Un homme gros a longtemps été vu comme un homme fort, comme un homme costaud, comme un homme qui pouvait fournir aux besoins de sa famille, etc. Donc, il y a peut-être un peu de ça qui reste. Je pense que la pression sur la femme est là depuis beaucoup plus longtemps. Tu sais, je veux dire, quand je parle de j'avais fait dans le livre une espèce d'historique de la grossophobie contemporaine en Occident. Et je pense que, tu sais, bon, chez la femme, ça fait à peu près, je dirais, une centaine d'années à peu près qu'on le vit de façon assez sérieuse. Chez l'homme, ça fait moins longtemps, mais la pression est là. Je veux dire, on voit tous les mêmes pubs de Calvin Klein avec les gars super musclés, avec, tu sais, le six-pack, pas une once de gras sur le corps. Là, je veux dire, les pubs de vêtements masculins sont aussi difficile à voir pour monsieur tout le monde, que les pubs de vêtements féminins sont difficiles à voir pour madame tout le monde. Donc, je pense que la pression est peut-être inégale, mais pas si inégale entre les hommes et les femmes. Mais je pense que visiblement, les femmes ont probablement un peu plus de pression, je dirais, à ce niveau-là, parce que ça fait partie de la féminité, en fait, pour la minceur.
C'est plus facile pour un homme dans les médias de vieillir que pour une femme.
Absolument.
L'homme avec ses cheveux gris a l'air d'un sage, alors que la femme avec les cheveux gris, c'est pas la même perception.
Elle s'arrange pas. Ben écoutez, moi, pour vous soulever une idée à quel point c'est un peu ridicule, cette question-là, moi, j'adore faire des médias qui sont audio, parce que si je vais à la télé, j'aurais peur de devoir porter une gaine pour pas que mon discours, les gens soient distraits de mon discours par mon bourrelet. Donc, imaginez, je m'en vais parler de grossophobie à la télé, puis je vais porter un Spanx parce que je veux que les gens se rappellent de ce que je dis et non pas de ce que j'ai de l'air.
C'est une réflexion qu'on peut pousser assez loin. Une autre chose dont tu parles beaucoup dans ton livre, c'est des fameux régimes. La plupart fonctionnent pas, puis en fait, tu poses une question fort intéressante que j'ai notée ici. Qu'est-ce qui est plus nocif, rester gros ou essayer de perdre du poids?
Ben, dans ce cas-ci, je pense que le yo-yo, en tout cas, est prouvé comme étant vraiment mauvais pour le corps en général et le métabolisme en particulier, et je dirais pour la santé mentale aussi, là, parce qu'une personne qui alternerait le sentiment de bonheur et de succès relié à une perte de poids et ensuite le sentiment d'échec de le reprendre, je veux dire, ça peut pas être bon pour la santé mentale de personne. Et surtout de le vivre par soi-même, mais de le vivre dans le regard des autres aussi. Hein? Parce que être gros, ça se vit beaucoup dans le regard des autres. Moi-même, d'ailleurs, j'en parle en début d'ouvrage, je dis que moi, j'ai appris que j'étais grosse de la part des autres. Je m'en suis pas rendu compte toute seule. C'est les autres qui m'ont dit que j'étais grosse. Donc, tant qu'à moi, être une personne grosse, mais en bonne santé métabolique, qui a des habitudes de vie saines, qui est pas sédentaire, qui a une alimentation équilibrée, qui a un niveau de stress, une qualité de vie qui sont gérables et qui sont acceptables, cette personne-là, à mes yeux, et je ne suis pas un professionnel de la santé, va sûrement globalement beaucoup mieux qu'une personne qui fait du yo-yo toute sa vie, qui use son métabolisme. Et ça, comme je disais, là, ça a été démontré que ça use le corps de faire ce yo-yo-là. Non seulement qu'il use son corps, mais qu'il use sa tête, qu'il use son esprit aussi à s'imposer ces périodes de succès, échec, succès, échec, succès, échec. Ça peut pas ne pas avoir d'influence sur comment on a d'estime envers soi-même, comment on se fait confiance, comment on s'apprécie, comment on se juge. Je peux pas croire que ça a pas d'effet.
Dans ton livre, tu parles que les personnes grosses, les hommes, les femmes, ont pas accès aux mêmes soins médicaux que les autres, qu'il y a souvent une stigmatisation là aussi.
Oui, en théorie, tout le monde devrait pouvoir se présenter à l'hôpital et avoir accès à la même chose. En théorie, c'est vrai, mais dans les faits, j'ai un exemple auquel j'ai réfléchi récemment. Moi, si je vais à l'hôpital et que je demande une prescription pour une référence pour aller faire un test d'apnée du sommeil, par exemple, on va me dire maigrir. On va sûrement me dire de maigrir avant parce qu'il y a, bon, il y a beaucoup de cas d'apnée du sommeil qui sont reliés au poids. On me dira pas, on va faire le test pour savoir si tu le fais. On va dire, essaye de maigrir, voir si ça règle pas ton problème. Alors qu'on connaît les résultats des diètes qui ne fonctionnent pas à 95% sur 5 ans. Et quand on dit « fonctionne pas », c'est donc prendre tout le poids perdu et même plus. Donc, et ça c'est encore là, c'est sur le site web, par exemple, d'apparence trompeuse de l'Association de la santé publique du Québec. Là, c'est pas des chiffres que j'invente, c'est des vraies recherches. Donc je vais donc plus facilement pouvoir avoir une prescription pour une chirurgie bariatrique. Et peut-être même, je vais peut-être même avoir la chirurgie avant de réussir à avoir mon test pour l'apnée. Donc, ça donne une idée parce que les gens vont y aller avec la première chose qu'ils voient. Et tu sais, les médecins et surtout les gens en première ligne, parce qu'il y a de plus en plus de professionnels de la santé en deuxième, troisième, quatrième ligne qui commencent à être sensibilisés. Je pense à un gars comme Benoît Arsenault, le chercheur, qui a fait la préface de mon livre, par exemple. Ce gars-là est un chercheur super connu sur les questions de poids, d'obésité, etc. Et il est extrêmement respecté dans son domaine et il comprend. La preuve, il a accepté de faire la préface d'un livre sur la grossophobie en disant que c'est pas correct, la grossophobie. Ce gars-là comprend la mécanique. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Là. Mais c'est pas lui qu'on voit. C'est pas des gars comme lui ou c'est pas des femmes comme lui qu'on voit quand on va chez à l'urgence ou chez le médecin nécessairement. Et pour se rendre au niveau des spécialistes qui comprennent tout ça, pour finalement se faire dire, être référé 3-4 fois, pour finalement se faire dire, ben finalement, c'est pas ton poids, ton problème, c'est d'autres choses. Donc, il y a tout un système aussi de porte tournante, de la même façon que les personnes, souvent les personnes très minces qui vont dire, ah, ben moi, on me fait bien trop de tests quand je vais chez le médecin parce qu'on se dit, ben là, je suis bien trop mince, c'est pas normal, etc., etc. On va me faire plein de prises de sang, on va me faire plein de ci, de ça. Ben, ouais, mais au moins, toi, ils cherchent. Ça doit pas être le fun de se faire imposer des prises de sang ou des radios ou des tests pour rien. J'en conviens. Mais au moins, ils essaient. Du côté des personnes grosses, ils vont te faire une prescription pour un régime. Et quand c'est pas carrément une prescription pour un trouble alimentaire, ils vont te dire retourne à la maison et arrange-toi avec ça. Et règle ton propre problème alors qu'on le sait que les régimes ne fonctionnent pas. Passer un 5 à 10 % de poids, il n'y a plus grand-chose à faire. Une personne peut faire varier son poids de 5 à 10 %, mais pour une personne qui pèse 300 livres, 30 livres, là, c'est pas ça qui va changer. T'sais, ça va changer certaines choses. Mais pourquoi qu'on prescrit pas des bonnes habitudes de vie, justement? T'sais? Puis ça se peut que la personne en ait. Puis si la personne, elle les a déjà, puis elle pèse 300 livres, tu fais quoi? Tu vas lui dire de maigrir. Ça se peut qu'elle ait des meilleures habitudes de vie que bien des personnes minces. Donc, c'est ça qui est... on va souvent tout mettre sur le dos du poids parce que c'est un peu la solution facile. Puis bon, le système étant surchargé comme il est, ça aide pas. Les médecins aussi, c'est des gens... Je veux dire, c'est des humains, hein, avant tout. Ils sont exposés aux mêmes biais grossophobes que nous le sommes, aux mêmes pubs, aux mêmes divertissements, aux mêmes messages. Donc, ça n'aide pas. Et il y a toute la notion de, justement, de voir traiter et treat them and street them, comme on disait dans ER. Donc, traite-les et renvoie-les chez eux. Je veux dire, ça aide pas en ce moment dans le système. Et je pense que la COVID-19 a été un exemple à quel point on a mis l'accent sur différentes stigmatisations liées au poids, parce que tout le long, on disait les personnes grosses sont plus à risque, les personnes grosses sont plus à risque, les personnes grosses sont plus à risque. Il y en a même qui disaient sont plus à risque de développer la forme grave si exposé. Mais il y a des gens qui disaient qu'à exposition égale, les personnes grosses étaient plus à risque de l'attraper. Ben voyons, non, ça se peut pas, là. Donc, tu sais, à un moment donné, c'était à risque d'être à risque. J'avais même écrit un billet là-dessus qui disait, regardez, là, à exposition égale, deux personnes ont les mêmes chances. C'est sûr que si la personne grosse l'attrape, elle est plus à risque de développer la forme grave. Mais là, on est dans beaucoup de nuances, là. Et là, ce qui est très drôle, et moi, ce que j'ai très, très, très hâte de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le fameux ordre de priorité de la vaccination. Parce que là, tout le long, on a refusé des emplois à des gens en disant qu'ils étaient plus à risque à cause de leur poids. Il y a eu au moins 3-4 occurrences qui ont été présentées dans les médias, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, etc. Tout le long, on a tapé sur les personnes grosses pour leur dire « Faites attention, la COVID, ça va vous tuer ». Mais là, les personnes grosses vont-ils avoir un droit de priorité avec les gens qui vivent avec d'autres maladies chroniques sur la vaccination? Moi, ça, j'ai très, 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 très hâte de voir si ce sera le cas. Parce que si c'est pas le cas, sérieusement, c'est vraiment insultant. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, honnêtement. Les personnes grosses comme les personnes pas grosses.
Tu as parlé de chirurgie bariatrique, puis il y a des statistiques dans ton livre aussi. C'est quoi ta position par rapport à ça?
J'ai une position personnelle et j'ai une position générale. en fait, c'est sûr que la chirurgie bariatrique, il y a des gens pour qui c'est une nécessité. Hein? Il y a des gens pour qui il n'y en a plus d'autres options.
Avant de continuer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Parce que peut-être
oui.
Que tout le monde n'est pas au courant c'est quoi.
Okay. La chirurgie bariatrique se décline en plusieurs versions. La version la plus connue est sans doute ce qu'on appelait le fameux brochage de l'estomac, donc qui était de rapetisser la pochette, en fait la poche de l'estomac. Mais il y a aussi une dérivation je me rappelle pas exactement du terme, mais quelque chose de pancréatique, enfin, une dérivation donc par l'intestin. Il y a au moins 4 versions différentes de la chirurgie bariatrique qui consiste à modifier le système digestif pour modifier l'absorption ou la quantité ou les deux des aliments consommés. Ça, c'est la version très simplifiée. Ce qui est assez étonnant, en fait, sur ça, c'est que c'est présenté comme la seule solution. C'est vrai que c'est la seule solution définitive, parce que souvent, on dit « Ah, ouais, mais faut maigrir. » OK, mais il y a deux façons de maigrir. Les régimes, je pense qu'on en a parlé, et je pense que c'est assez clair que le taux de succès est assez bas, bon. Pour ne pas dire absent. Et moi, je dis toujours, c'est quoi qu'on devrait considérer? Bon, ça prend quelque chose d'efficace, ça prend quelque chose qui est sécuritaire et ça prend quelque chose qui va fonctionner donc à long terme. Et là, donc, les régimes ne sont pas efficaces. Ça règle le dossier. Ça peut même pas être sécuritaire dans le cas de certains produits naturels, par exemple, qui sont vendus. Parce que il y a plein, la SPQ, justement, l'Association de santé publique du Québec, a documenté énormément de produits naturels destinés à l'amaigrissement qui créaient des problèmes au foie. Et qui créait de l'hépatotoxicité, en fait, au niveau du foie des personnes qui en consommaient. Là, ça commence à être grave, là. Se scraper le foie pour maigrir, là, je trouve que c'est un sacrifice un peu intense. Et sinon, ben c'est ça, il faut que ce soit sécuritaire, il faut que ce soit durable. La chirurgie bariatrique peut être sécuritaire, peut être durable, mais il y a un risque réel dans cette chirurgie-là. Donc, c'est une chirurgie qu'au-delà, d'ailleurs, du risque de l'opération elle-même, il y a un risque après. Un risque après au niveau de la guérison, mais aussi un risque au niveau de toutes les conséquences qu'on commence à documenter, parce que là, on a une cohorte, en fait, je dirais assez importante, de gens qui ont fait cette chirurgie-là pour constater des tendances que la dérivation roue en Y, si je me trompe pas du terme, cette chirurgie-là, les gens qui l'ont eue développeraient des taux d'addiction à l'alcool qui seraient particulièrement élevés. Après la chirurgie, il y a des gens qui développeraient des problèmes d'automutilation ou d'idées suicidaires qui seraient jusqu'à 50% plus élevés que chez la population non grosse habituée. Donc, on se rend compte que les gens qui vivent la chirurgie à court terme, ça peut être justement dangereux, mais à long terme aussi. Et je me dis qu'une personne, par exemple, qui aurait une historique d'alcoolisme dans sa famille, ou personnelle même, ou une personne qui aurait des défis par rapport à sa santé mentale, qui est une personne qui vivrait, par exemple, dépression sur dépression, à lever cette chirurgie-là, ouf, c'est peut-être plus dangereux que d'autres choses, finalement. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais je pense que cette espèce de panacée-là qu'on nous présente comme étant la chirurgie la solution à tout, moi, j'ai énormément discuté avec ça parce que moi, connaissant mon profil, mon historique à moi, je pense que ça serait plus dangereux pour moi de passer au travers de la chirurgie en ce moment, avec mes circonstances actuelles, que de rester grosse, mais d'essayer d'avoir les meilleures habitudes de vie possibles.
Oui, parce que veut pas, peu importe la chirurgie, c'est quand même assez, c'est très invasif sur le corps.
Exact. C'est très, comme je dis, l'acte chirurgical est très invasif, mais la suite des choses, c'est que tout se règle pas par magie. Et y a aussi beaucoup de gens qui ont de la difficulté à gérer, parce que là, on parle de toute la, tu sais, au-delà des cicatrices, de la peau qui peint, des réactions aussi. Ça peut créer, par exemple, une diarrhée pour le restant de sa vie à une personne, la chirurgie. Donc, ça peut être sérieux, là. Ça peut créer des carences vitaminiques qui forcent à prendre des concentrés de vitamines extrêmement élevés pour le restant de sa vie. Ça peut faire que tu ne peux plus boire en mangeant ou tu ne peux plus consommer des trucs carbonisés, là, avec des bulles, rien avec des bulles, fini. Donc, ça commence à être... Il y a des gens pour qui ce ne sont pas des sacrifices qui sont vivables. Moi, je veux dire, je suis une personne qui adore voyager. L'idée de devoir me trimballer avec un régime de vitamines ou d'avoir besoin d'avoir accès à une toilette en tout temps, pour moi, c'est pas une option. J'ai pas envie de vivre ça. Peut-être que plus tard, ou peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est un sacrifice qui se vaut, mais faut aussi présenter ça pour ce que c'est la chirurgie bariatrique. C'est une chirurgie importante et sérieuse qui a des conséquences. Et que ce n'est pas bistouri, merci, bonsoir, tout est réglé. Et après ça, ta vie est belle, tu deviens mince, tout le monde te trouve beau. Parce qu'il y a toute une composante psychologique aussi. Il y a une personne qui me disait avoir eu la chirurgie et qu'après, elle se disait, j'ai plus besoin d'être aussi fine. J'ai plus besoin d'être la grosse personne fine. Donc, tu sais, c'est tout. Ça vient te jouer dans le cerveau. Ça peut pas ne pas avoir de conséquences.
J'imagine que la statistique n'existe pas non plus, mais est-ce que les personnes qui ont reçu cette chirurgie-là et qui ont perdu du poids sont plus heureuses après?
J'en ai aucune idée, honnêtement. Je sais qu'il y a un article que j'avais lu et que j'avais cité en train dans le livre et qui disait, qui était présenté comme « Mais tout est supposé se régler magiquement après la chirurgie. T'sais, tout est supposé aller en s'améliorant après la chirurgie. » Mais on se rend compte que, ben justement, je parlais tout à l'heure de gens qui ont des problèmes d'automutilation, de dépression, de hausse de suicide. Après certaines versions de la chirurgie, visiblement, c'est pas une garantie de bonheur, hein? Que, ne serait-ce que pour des raisons purement métaboliques, là.
Dans ton livre, tu reviens souvent à l'importance de faire la distinction entre la lutte contre la grossophobie et la prévention de l'obésité. J'aimerais ça terminer là-dessus pour... c'est quoi la différence entre les deux? C'est important.
Ben, c'est parce qu'en fait, la prévention de l'obésité, déjà, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de prévention de l'obésité? Hein, les fameux messages. On dit éviter les aliments super transformés, on dit faire de l'exercice, éviter d'être sédentaire, manger des aliments sains. Bon, en gros, c'est généralement, c'est ça. Sauf que...
Mais c'est vrai pour tout le monde!
Mais voilà, c'est bon pour prévenir certains cancers, c'est bon pour prévenir le diabète, c'est bon pour prévenir l'ostéoporose, c'est bon pour prévenir la dépression, c'est bon pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, on peut-tu arrêter de parler justement de prévention de l'obésité et de parler de saines habitudes de vie, de promotion de saines habitudes de vie? Parce qu'il n'y a absolument personne sur Terre qui ne gagne pas à mettre ces habitudes-là en pratique. Mais cette idée de mettre l'emphase sur « il faut que les personnes grosses » fasse ça, ça ne fait que contribuer à la stigmatisation et à contribuer au fait qu'on considère que les personnes grosses sont les seules responsables de leur sort et les seules responsables de leur changement. Donc, ça met une emphase, une nécessité et une responsabilité de changement sur ces personnes-là, un changement qui, on le sait très bien, ne risque pas d'arriver à long terme. Et finalement, ça envoie un faux message qu'il y a juste les personnes grosses qui devraient faire ça parce que tout le monde, peu importe l'âge, peu importe l'état de santé, peu importe la taille, absolument tout le monde bénéficie de faire ces choix-là. Donc, moi, je dis, changeons les termes parce que les habitudes, elles sont bénéfiques à tout le monde, personne grosse ou pas grosse, jeune, vieille, malade ou en santé. Toute personne qui a cette possibilité de mettre ça en pratique, arrêtons de voir ça comme la prévention de l'obésité, mais comme la promotion et de l'aspiration à une meilleure santé de façon globale, parce qu'une personne mince, et ça, je pense que ça va, j'aime bien finir avec cette idée-là, il faut sortir de la tête qu'une personne mince est forcément en santé et qu'une personne grosse ne l'est pas. Parce qu'il y a des Olympiens, allez voir les haltérophiles olympiennes, ces femmes-là, elles sont grosses et elles peuvent toutes nous plancher, toute la gang, en matière de santé. Grosse comme mince. Poids n'égale pas santé.
Pourrais-tu, en terminant, nous donner 2-3 petits trucs faciles dans la lutte à la grossophobie? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Qu'est-ce que nos auditrices et nos auditeurs peuvent faire pour participer à ce programme collectif?
Bien, le premier truc, je dirais que ça serait de s'exposer, en fait, à une esthétique de corps gros. Aller suivre des gens sur les médias sociaux, des personnes qui sont grosses. Je pense, par exemple, à des personnalités québécoises. On peut penser à Debbie Lynn Chouette, par exemple, qui est une femme grosse et qui est absolument merveilleuse. Une personne qui est un peu plus grosse depuis quelques temps et qui est absolument radieuse, Ariane Moffatt, mon Dieu, elle est tellement... Elle illumine à toutes les fois que je la vois partout à la télé. Je pense à des femmes comme Louise Green, la Canadienne, qui est entraîneur, en fait. C'est une coureuse. Je pense à des chanteuses, mettons, comme Lizzo, par exemple, qui est une force de la nature, qui pitche du feu avec sa flûte traversière. Elle est absolument inspirante. Je pense à des gars comme Carl Hardy, un Québécois, qui, chez les gars, qui en parle. Michael Bergeron, évidemment, est contournable chez les hommes au Québec. Exposez-vous à des corps gros. Oui, au début, des fois, ça va vous choquer de voir des vergetures, de voir des bourrelets, des plis, des choses comme ça. On s'habitue, puis ça devient presque banal après un certain temps. Ça serait probablement le truc le plus facile. Le reste, ça dépend toujours du niveau d'implication qu'on veut se donner, mais de dénoncer, en fait, les initiatives grossophobes ou faussement inclusives. Tu sais, quand on parle d'inclusivité qui arrête à XX large, c'est pas de l'inclusion. C'était de l'inclusion pour d'autres choses, pour des questions de genre, pour des questions de grandeur, mais c'est pas une inclusion de la grosseur. Donc, quiconque se dit body positive à XX large a des devoirs à faire. Il faut pas juste surfer sur cette vague-là sans devoir rendre de compte. Et le plus gros défi, je pense, ça serait d'aller faire un petit ménage dans nos petits greniers intérieurs. Ça, c'est peut-être le un petit peu plus difficile. Pour explorer sa propre grossophobie internalisée. Parce que souvent, ça commence par là. Et c'est souvent ce que je suggère comme première étape, mais c'est probablement la plus difficile. Parce qu'on trouve des affaires pas le fun, on réalise qu'on a posé des gestes, des fois, qui étaient grossophobes, puis on le regrette. Ou on se dit, mais à quoi j'ai pensé? On trouve toutes sortes d'araignées, puis de toiles, puis de poussières, puis d'affaires pas le fun, mais ça vaut la peine. Et c'est un ménage qui est... faut le faire au moins tous les printemps. Hein? donc, faut pas hésiter aussi à se remettre en question régulièrement, de se questionner pourquoi on pense comme ça, qu'est-ce qui motive nos réflexions par rapport à une personne, est-ce que c'est uniquement à cause de son poids, est-ce que c'est uniquement à cause de son allure, parce que, comme je disais, la grosseur, on peut pas s'en cacher, mais on peut en faire abstraction quand on est la personne qui regarde.
Oui, puis son ménage intérieur aussi, ça nous fait voir à quelque part qu'on est aussi des éponges de ce qui est projeté dans la société, qu'on a gobé plein de choses, pas parce qu'on voulait, mais parce qu'on s'en est pas rendu compte, puis de regarder
ça. Non, c'est ça, puis c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut faire preuve d'indulgence, de bienveillance dans ce petit ménage, ce gros ménage intérieur, parce qu'on va découvrir des choses qu'on n'avait peut-être pas réalisées, parce qu'on va regretter des choses, mais le but, c'est de le faire pour s'améliorer comme personne, pour s'améliorer pour soi et pour les autres, pour pouvoir être plus doux et plus gentil et plus bienveillant vraiment envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et la première personne qui va de toute façon gagner à faire cette job de ménage-là et enlever les toiles d'araignée à l'intérieur, c'est soi-même. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui perd à faire ce processus-là en bout de ligne quand il le fait avec bonne foi puis avec les bonnes intentions.
Les gens qui veulent en savoir plus sur toi, ils vont où? Comment?
Grossophobie.ca, info et référence. Donc, c'est le site web, en fait, où on met l'information à jour le plus souvent. Évidemment, Grosse et Puis, connaître et combattre la grossophobie qui a été publiée chez Trécaré en septembre dernier et qui, bonne nouvelle, sortira en France l'année prochaine, au début de l'année 2022. Donc, chez les éditions Marabout. Donc, très, 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 très hâte. Donc, que ça sorte officiellement de l'autre côté de l'Atlantique. Surtout que c'est prévu pour une circulation en format de poche. Donc, très, très, très accessible pour une majorité de gens. On se croise les doigts.
Hey, merci, Edith. C'est vraiment intéressant, fascinant. Toute cette réflexion-là que tu portes et que tu nous partages, là, c'est super important et c'est riche.
Merci beaucoup, Génie.